en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de remercier la présidente de l'Académie des Beaux-Arts, Madame Edith Cana de Chizy, le secrétaire perpétuel, Monsieur Laurent Petit-Girard, et les membres de votre Académie pour cette invitation à faire cette conférence. J'occupe au Collège de France une chaire dont on a rappelé l'intitulé, qui fait écho à un ouvrage sous-titré « Le travail créateur s'accomplir dans l'incertain ». Et mon cours, s'il ne concerne pas uniquement les arts, s'y réfère souvent, par exemple sur la question du talent qui m'a occupé cette année et m'occupera encore l'an prochain. Les cours du Collège de France sont accessibles à tous, en salle et sur Internet. La connaissance est un bien public et le débat sur les éléments de la connaissance tout autant. Et je vous propose d'exposer mon propos avant d'en débattre. Dans les sciences sociales, quelques-unes des analyses les plus importantes consacrées au travail, à sa valeur et à ses significations changeantes, ont leur origine dans des travaux sur les arts et les sciences. La sémantique du travail est depuis longtemps double, avec l'opposition entre le travail utilitaire ou instrumental et le travail expressif porteur de sens et vecteur d'accomplissement. Cette seconde conception du travail remonte à Aristote, mais n'a pris sa pleine consistance qu'à la fin du XVIIIe siècle et dans la toute première moitié du XIXe siècle, et en se prolongeant jusqu'à nos jours chez une grande variété de penseurs. Et elle identifie les activités de création comme la forme la plus haute du travail, au plus loin du caractère instrumental auquel la première conception le réduit. La création artistique a donc pu servir de référence critique pour dénoncer le déni de sens du travail prescrit et routinier. Depuis le XIXe siècle, les écrivains, les peintres, les compositeurs, les sculpteurs ont eux-mêmes contribué dans leurs écrits à l'élaboration de ce qu'on peut appeler une ontologie du travail créateur et comme l'a fait Charles Taylor et après lui Jon Elster, une conception expressiviste du travail. Elle a un fondement hautement individualiste. L'argument est que l'essence d'un travail libre et sans entrave réside dans le complet déploiement de l'idiosyncrasie individuelle. Le travail créateur doit être l'incarnation la plus directe de cette idiosyncrasie. L'incarnation la plus évidente de cette nouvelle norme esthétique est le principe d'originalité. Chaque artiste doit travailler à différer des autres, mais à condition de ne pas verser dans une recherche arbitraire de singularité. Tout au contraire, selon un fameux argument kantien, un véritable travail original doit pouvoir être donné en exemple, mais sans être copié, ce qui a sorti la valeur d'originalité d'une valeur d'exemplarité, pour qualifier les œuvres importantes. Comment transformer la célébration de l'idiosyncrasie individuelle en valeur générale? C'est ici que réside l'une des apories de cette ontologie du travail créateur évoquée à l'instant. Revenons au XIXe siècle. D'un côté, les artistes ont été nombreux à revendiquer non seulement des conditions plus favorables pour leur activité, mais aussi une société plus juste, conformément à un héritage révolutionnaire de l'abolition des privilèges auxquels ils ont contribué. Je renvoie ici aux formidables travaux de Paul Bénichoux. Mais de l'autre côté, les artistes étaient désormais pleinement immergés dans un régime d'invention artistique qui exigeait que chacun se différencie des autres. Une expression directe de cet impératif d'originalité est la relation étroite qu'a entretenue dès lors la professionnalisation des artistes avec le fonctionnement des marchés artistiques et culturels. À bien des égards, cette professionnalisation via le marché des concerts, des peintures, des romans, a sollicité et consolidé les mécanismes de concurrence de chacun avec tous à travers de multiples dispositifs d'évaluation comparative. dans une conception originale de l'originalité, horizontale de l'originalité, chaque individu est appelé à exprimer la totalité de ses capacités, de ses talents, pourvu que les entraves à cette expression de l'idiosyncrasie individuelle soient abolies. Mais dans une définition verticale de l'originalité, c'est par la comparaison relative que se forment les hiérarchies de valeurs et que sont appréciées les qualités des individus. L'un des résultats de cette tension a été indiqué par le musicologue et philosophe Leonard Meyer. Les artistes romantiques ont inventé un élitisme égalitaire. Il s'agissait de reconnaître sans réticence à certains créateurs des capacités exceptionnelles et de les donner à admirer, parce que ces capacités sont aussi des ressources pour innover et pour abolir la tyrannie des hiérarchies traditionnelles. De fait, la notion de génie, dans son étymologie comme dans sa progressive élaboration dès la Renaissance et dans son appariement avec une esthétique de l'originalité à partir du XVIIIe siècle, a deux versants. Le versant hiérarchique, qui signale l'éminence remarquable de certains créateurs, et le versant égalitaire, qui fait de chaque individu une totalité à nul autre substituable, et donc de l'expression de la personnalité individuelle, la condition de réalisation d'un travail délié des filets de limitation. Le point de convergence de ces deux versants est l'idée que la personnalité créatrice, tout autant que son activité, recèle des éléments essentiellement non prévisibles. Pour le dire autrement, c'est dans une activité qui n'est pas immédiatement subordonnée à des fins spécifiées ab initio que l'individu peut exprimer sa pleine puissance inventive, précisément parce qu'il ne peut pas contrôler lui-même la situation de travail de part en part et qu'a fortiori autrui ne peut pas exercer sur son travail, sur le travail du créateur, un contrôle étroit qui rapidement abolirait la dimension d'émergence et d'imprévisibilité. L'histoire des arts est peuplée de ces caractères et tempéraments artistes indociles, obsédés de travail, fiers, entreprenants et inquiets, tels Michel-Ange ou Beethoven. Ces figures du travail créateur sont aussi les supports efficaces de toute une mythologisation de la génialité. On aimerait pouvoir identifier les traits individuels qui sont prédictifs de l'inventivité, ce qui permettrait de résoudre le problème lancinant de la perle rare, c'est-à-dire cette équation injuste et coûteuse qui a besoin de beaucoup d'appelés pour produire peu d'élus. Mais cette identification certaine des facteurs de l'inventivité est un vœu contradictoire dans les termes, puisqu'il abolirait le principe d'innovation. Je veux dire le principe de l'innovation radicale, pas celui de l'innovation incrémentale. D'où la solution de la rationalisation a posteriori, au vu des réalisations admirables d'un individu, tâchons de déceler ce qui a bien pu le doter de capacités extraordinaires. En d'autres termes, il s'agit de déchiffrer à rebours l'équation causale d'une réussite dont le cours était essentiellement incertain. J'ai introduit cette notion d'incertitude. L'incertitude a deux faces, interne et externe, intrinsèque et extrinsèque. La face interne, c'est celle du cheminement tâtonnant et non linéaire du travail créateur, son cours plus ou moins chaotique avec ses bifurcations, ses repentirs, ses révisions, ses recommencements. La gratification que procure un tel travail vient de là précisément, car créer, c'est en effet ne pas savoir d'avance ni quel sera le résultat, ni quelle sera la quantité d'essais et d'erreurs qui vont surgir durant le processus de travail, ni où se situe le point d'inflexion à partir duquel plus d'efforts deviendra improductif. Et parce que le résultat ne peut pas être anticipé comme une cible certaine qu'on pourrait atteindre assez sûrement à l'aide d'un bon schéma de travail, l'artiste doit pouvoir se réjouir d'être surpris ou même dépossédé des moyens de contrôle complet sur son action. L'artiste mettra les surprises stimulantes ou désarmantes de son activité en balance avec le labeur de ses tâtonnements. La face extrinsèque de l'incertitude dans le travail de création, c'est la valeur qu'autrui reconnaît au résultat et qui expose le dit résultat à des mises en comparaison avec ce qui a déjà été fait par d'autres, est-ce vraiment original, et avec ce qui se fait, est-ce plus intéressant que ce que j'ai vu, entendu, lu récemment ? L'évaluation des artistes et de leurs œuvres serait évidemment aisée si l'appréciation était réalisée en termes absolus et si elle conduisait à déterminer les qualités de l'artiste et la valeur de ses œuvres à partir d'une échelle univoque de mesure, à partir d'un ensemble stable de critères dépourvus d'ambiguïté. Mais c'est précisément le contraire qui est vrai. L'originalité esthétique et la valeur artistique ne se mesurent pas autrement qu'en termes relatifs. Mais comment donc opère une mesure relative de la qualité ? Les évaluations des professionnels et des publics sont produites à partir d'incessantes comparaisons. Les artistes travaillent à différer les uns des autres selon de multiples dimensions pour soutenir la compétition par l'originalité, mais ce que cette loi de l'originalité tend à juxtaposer, les professionnels et les publics le hiérarchisent dans leurs préférences et dans leurs investissements au long d'une longue série d'épreuves, de comparaisons et de compétitions. Et les évaluations qui sont ancrées dans de telles procédures de comparaison sont bien sûr sujettes à des biais de préférence, d'information, de cadrage, bien davantage que dans le cas où le travail est directement normé. Rapprochons maintenant les deux faces, internes et externes, de cette incertitude à travers une observation assez perturbante. Il peut très bien n'y avoir rigoureusement aucune corrélation entre la quantité d'efforts que met un créateur à produire une œuvre qui le satisfasse et la valeur qui sera reconnue à cette œuvre par les professionnels, par les publics, par le marché, immédiatement ou à plus long terme. Pourtant, cette quantité de travail qui a été fournie a été volontiers mise en avant par les artistes, tout particulièrement à partir du XIXe siècle. C'est que l'esthétique de l'originalité pouvait aisément faire planer le soupçon d'arbitraire dans l'exercice de la liberté créatrice. Comment en effet garantir le sérieux de son activité à autrui quand on évolue dans un territoire d'action où le travail peut prendre les traits du jeu, du libre déploiement de l'imagination et procurer ce plaisir intrinsèque pris à son travail qui est réputé constituer une condition de l'inventivité. Pour ne citer que deux auteurs qui sont, je crois, de bonnes références et qui, du reste, ont été de grands professeurs au Collège de France, je peux rappeler d'abord, dans des termes concis, la morale du travail créateur qu'a exposé Paul Valéry. Le travail sévère en littérature est mesuré par le nombre des refus, la quantité des solutions que l'on rejette. Et puis voilà l'analyse proposée par Roland Barthes dans un chapitre de son livre « Le degré zéro de l'écriture, l'artisanat du style ». Je vais peut-être le lire pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Vers 1850, il commence à se poser à la littérature un problème de justification. L'écriture va se chercher des alibis et précisément parce qu'une ombre de doute commence à se lever sur son usage, toute une classe d'écrivains soucieux d'assumer à fond la responsabilité de la tradition va substituer à la valeur usage de l'écriture une valeur travail. Alors commence à s'élaborer une imagerie de l'écrivain artisan qui s'enferme dans un lieu légendaire comme un ouvrier en chambre et dégrossit, taille, polie et sertit sa forme, exactement comme un lapidaire dégage l'art de la matière, passant à ce travail des heures régulières de solitude et d'effort. Des écrivains comme Gautier, maître impeccable des belles-lettres, Flaubert, rodant ses phrases à Croisset, Valéry, dans sa chambre au petit matin, où Gide, debout devant son pupitre comme devant un établi, forme une sorte de compagnonnage des lettres françaises, où le labeur de la forme constitue le signe et la propriété d'une corporation. Cette valeur travail remplace un peu la valeur génie. On met une sorte de coquetterie à dire qu'on travaille beaucoup et très longtemps sa forme. Il se crée même parfois une préciosité de la concision. Travailler une matière, c'est en général en retranché, comme disait Valéry, bien opposé à la grande préciosité baroque, celle de Corneille par exemple. Comme tout ça est bien dit. La quantité d'efforts contenus dans un travail de création a, il faut le dire, des caractéristiques bien particulières. Au-delà du fait que je rappelais à l'instant, à savoir cette relation très incertaine entre l'effort et la valeur du résultat. Des idées essentielles peuvent jaillir brusquement et conduire rapidement à la production d'une œuvre, ou au contraire, un projet peut prendre des années avec des tentatives, une mise de côté, une reprise, etc. J'y reviendrai. Les premiers intéressés, évidemment, à la compréhension de leur travail sont les artistes. Faire ne suffit pas, les artistes aimeraient comprendre mieux ou complètement comment ils parviennent à un résultat pour s'éviter, peut-être, l'agonie des enfantements douloureux. Plutôt que de multiplier les exemples, évidemment, je suis obligé de sacrifier une matière considérable de recherche pour être à peu près dans les délais qui me sont impartis, et j'espère ne pas en abuser. Je vous présente ici une série de citations de Pablo Picasso qui commente son travail et son processus de création. On trouve beaucoup de cette matière, évidemment. J'ai fait cette sélection, mais ces citations sont pour certaines très célèbres. L'intérêt du tableau qu'elle compose est la relation qu'elle permet d'établir entre la nature du travail de création, tel que Picasso la comprend, et les ressources nécessaires pour espérer l'exercer au mieux. Les citations ont plus de valeur par l'ensemble qu'elles composent que prises une à une. Elles sont issues de sources diverses et j'espère qu'elles sont bien toutes de Picasso. On ne sait jamais. Les voici et je les commente brièvement, une à une ou par bloc. La première dit « Si l'on sait exactement ce qu'on va faire, à quoi bon le faire ?» Il n'y a pas de formulation plus concise pour exprimer que l'incertitude quant au résultat est un attracteur, un motivateur de premier ordre, celui qui s'attache précisément au travail non routinier. Les cinq citations suivantes illustrent, je les lirai ensuite, illustrent les fluctuations de cette analyse réflexive du créateur à laquelle se livre Picasso. Dire que tout l'intérêt de l'art est dans le commencement paraît rejoindre, après tout, les principes de la rhétorique classique qui énonçait les différentes phases du travail, inventio, l'intuition initiale, la formulation d'un motif, d'un sujet de départ, puis dispositio, la disposition des différents éléments, et puis élaboratio, le travail d'élaboration de l'ensemble, en accordant toujours la prééminence à la première phase, puisque celle-ci paraît contenir en germe toute la richesse de ce qui sera développé ensuite, selon un principe de croissance organique. C'est ce qui a conduit, notamment au XVIIIe siècle, à donner à l'esquisse initiale, au premier jet, une valeur de spontanéité créatrice qui échappe en quelque sorte au travail, mais pour mieux le mettre en mouvement. Or, dans les quatre citations qui vont suivre, Picasso récuse aussi un schéma linéaire de croissance organique et de progression étape par étape. Ces quatre citations sont les suivantes. Tout l'intérêt de l'art se trouve dans le commencement. Après le commencement, c'est déjà la fin. Et puis ensuite, tout acte de création est d'abord un acte de destruction. Et puis, autrefois, les toiles progressaient jusqu'à leur achèvement par étapes. Chaque jour apportait quelque chose de neuf. Un tableau était une somme d'addition. Chez moi, un tableau est une somme de destruction. Je fais un tableau, puis je le détruis. Pourtant, à la fin, rien n'est perdu. Le rouge que j'ai enlevé d'un endroit se retrouve ailleurs. Et puis ensuite, les accidents, essayer de les éviter, c'est impossible. Ce qui est accidentel révèle l'homme. Et enfin, dans cette série, finir une œuvre, finir une peinture, quel non-sens. La finir, ça veut dire en avoir fini avec elle, l'avoir tuée, la chasser de son esprit et donner le coup de grâce au peintre comme à la toile. Dans ces citations, Picasso récuse donc ce schéma de croissance organique et de progression étape par étape. Sans vouloir surinterpréter l'ensemble que forment ces citations, ni connaître le caractère ludique des exercices d'introspection auxquels se livre un créateur dans des conversations qui sont publiées, je veux retenir simplement qu'une fois admis le principe d'incertitude qui a été énoncé dans la première citation, le phasage du travail apparaît devoir conserver un caractère variable et ouvert aux aléas pour progresser autrement que selon une anticipation parfaite du résultat. J'ai donné tout à l'heure, là, à l'instant, la citation sur l'achèvement, finir une œuvre, quel non-sens. La citation suivante de Picasso dit « Il faudrait pouvoir montrer les tableaux qui sont sous le tableau. » Les propos de Picasso rejoignent d'ailleurs cette poétique de Valéry dont je parlais tout à l'heure, cette morale de la progression par rejet, révision, réélaboration. Les manuscrits des écrivains ou des compositeurs, quand ils sont conservés, offre évidemment la matière première d'une analyse des processus créateurs. La génétique littéraire a complété, renouvelé et parfois même dévalorisé le travail philologique de la mise au point des éditions critiques quand il s'agissait de révéler toute la complexité des cheminements et d'entrevoir le chaos et l'organisation des décisions empilées dans le travail. L'exercice est assurément plus difficile en peinture, même si dans certains cas remarquables, la quantité des travaux préparatoires peut fournir un matériau exceptionnel pour l'analyse d'une peinture. C'est d'ailleurs précisément le cas pour Picasso. Picasso est connu pour sa production exceptionnellement abondante, plusieurs dizaines de milliers d'œuvres de toutes catégories, et nulle angoisse de la toile vide ou de la matière inapprochable et nulle pathologie du perfectionnisme stérile dans son cas. Sur la fin de sa vie, il inventa même un système pour peindre plus rapidement dans sa course de vitesse contre le temps. Et je fais allusion ici à une célèbre exposition qui eut lieu à Vienne en 2006, Malen gegen die Zeit, peindre contre le temps. Les Demoiselles d'Avignon, l'un de ses tableaux les plus célèbres, connut un processus d'élaboration exceptionnel. Picasso réalisa entre 400 et 500 études, esquisses préliminaires et ébauches employant diverses techniques. D'après William Rubin, c'est probablement un cas unique dans l'histoire de l'art. Aucun tableau n'a fait l'objet d'une telle accumulation d'essais préliminaires et de révisions obsessionnelles. On retrouve dans l'œuvre une étonnante diversité de styles qui fit d'ailleurs dire à Daniel-Henri Kenveller, le marchand de Picasso, que le tableau était inachevé. Et Picasso, du reste, accepta ce jugement. Je reviens à mes citations, ma collection de citations de Picasso, et j'en viens maintenant aux leçons que Picasso tire de sa pratique créatrice pour qualifier les compétences de l'artiste et les devoirs du métier. Je cite, « Le métier, c'est ce qui ne s'apprend pas. » Et on trouve dans la recherche en sociologie beaucoup d'échos à ce genre de propos sur les artistes. « J'essaie toujours, dit Picasso, j'essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire. C'est ainsi que j'espère apprendre à le faire. » Ensuite, « En peinture, on peut tout essayer, on a le droit, mais à condition de ne jamais recommencer. » Et ensuite, c'est dangereux le succès, on commence à se copier soi-même, et se copier soi-même est plus dangereux que de copier les autres. C'est stérile. Ces propos sont tout à fait conformes à une observation qui est très fréquemment faite dans les recherches sur les professions artistiques, et j'en ai fait, et je les ai observés. La relégation par les artistes de leur formation initiale a un rang très secondaire au profit d'une célébration d'une forme d'autodidaxie, y compris et même surtout de la part de celles et ceux qui ont reçu une formation artistique supérieure. On pourrait voir dans cette dénégation une balade manifestation d'orgueil de l'artiste qui ne veut être que le fils ou la fille de ses œuvres et ne rien devoir à personne. Un créateur incréé, comme aurait dit Bourdieu, ou un autodidacte par volonté et non pas par hasard, comme disait Pierre Boulez. En réalité, cette minoration de la formation initiale est moins convenue qu'il n'y paraît. Si le travail n'a de valeur qu'à proportion de sa variabilité et de l'originalité des projets et des réalisations, il doit donc être intrinsèquement formateur, et cette dimension formatrice oblige à réviser le partage habituel dans des emplois qualifiés, et les emplois artistiques en sont, entre l'acquisition des compétences par des études initiales et la mise en œuvre de ces compétences dans l'activité, modulo l'accumulation d'expérience. Ici, le défi est bien de ne jamais cesser d'apprendre sur son art, de se confronter à autrui, d'apprendre sur soi, de se renouveler. Travailler à créer, c'est travailler à extraire le contenu formateur d'un nombre aussi élevé que possible de situations et d'expériences dans le travail et hors du travail. Bien sûr, il faut pouvoir aussi capitaliser ces acquis, car nul ne peut travailler à se renouveler et à partir de zéro tous les jours, sans jamais se répéter. L'équation du travail créateur est celle d'un moteur à deux temps, explorer et exploiter. Picasso est comme Manet ou Cézanne, il se met en situation d'apprendre par la variété de ses projets, mais il sait aussi créer par séquence, en stabilisant ses méthodes avant de vouloir les modifier. Les différences entre ces créateurs sont certes considérables, tant Picasso incarne la mobilité et la versatilité exploratrice, là où Cézanne figure l'obsessionnel approfondissement de problèmes tôt entrevus dans sa carrière. Les équilibres entre exploration et exploitation sont donc certes variables selon les artistes et selon les périodes et les circonstances dans la carrière des artistes, mais l'essentiel est bien de rappeler que ces deux forces sont en tension. La citation sur le danger du succès ne désigne rien d'autre que cette force de rappel de la tension à maintenir. Au lieu d'opposer les deux comportements d'exploration et d'exploitation, il est en effet plus fécond pour analyser le travail et la carrière des artistes d'y voir deux forces qui entrent en composition de différentes manières selon les projets et selon les étapes de la carrière. Cet argument a été développé par le psychanalyste Didier Anzieux dans un chapitre de son livre « Le corps à l'œuvre ». Je vous donne ici la citation. Dans ce chapitre, Anzieux distingue les âges de la vie créatrice de la manière suivante. L'idéal de l'artiste, de l'écrivain juvénile, est de produire du premier jet et à jet continu. Idéal à l'image de la vie sexuelle de cet âge, sa créativité est rapide, incontrôlée, brillante, fiévreuse. L'auteur mûrissant a, comme la satisfaction sexuelle, l'inspiration plus lente à venir. En contrepartie, il trouve à élaborer son œuvre des plaisirs plus espacés, plus raffinés, plus construits. Le premier prône la libération des émotions et des passions, le second leur maîtrise. La production d'un matériel spontané suffit à celui-là. Il peint ou il compose en un jour. Quelques semaines lui suffisent à écrire un roman. Il ne se relie pas. L'œuvre doit être d'emblée parfaite ou elle n'est pas. On reconnaît là un des mécanismes essentiels au niveau schizoïde de la personne, le raisonnement en tout ou rien. La forme de son œuvre, autant que le fond, accapare le créateur à l'âge mûr. Il remanie son plan, il remet tout en chantier, les versions successives s'accumulent. Il recueille longuement sa documentation. Les corrections, les retouches l'occupent et le préoccupent. Le produit brut est pour lui non plus une fin, mais le point de départ d'un nouveau travail de mise au point, de réécriture. J'en reviens à mes citations de Picasso et je vous donne la dernière. Picasso réinvente dans cette citation la formule de Léonard de Vinci selon laquelle la peinture est cosa mentale. Picasso dit « Je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense ». Picasso rêvait de documenter photographiquement non pas les états successifs d'une toile, mais ce qu'il appelle ses métamorphoses. Autrement dit, d'avoir accès à l'activité mentale du peintre. On pourrait ainsi, ajoutait-il, voir comment un esprit trouve sa voie pour cristalliser son rêve. Mais ce qui est réellement très curieux, c'est de voir que l'œuvre ne change pas fondamentalement, que la vision initiale reste presque intacte en dépit des apparences. Le rêve n'est pas simplement celui de Picasso, mais celui des sciences cognitives qui cherchent à percer le mystère de la génération des idées neuves, autrement dit de la créativité. C'est un espoir ancien, depuis qu'à la Renaissance, art et science se sont rapprochés et que l'explication de l'intuition créatrice par la référence à l'action mystérieuse d'une force supranaturelle a cessé de constituer la seule réponse convaincante. Mais cet espoir a tout pour être une contradiction dans les termes, puisque, comme je l'ai déjà indiqué, connaître les facteurs et les mécanismes de l'invention créatrice, c'est annuler la puissance d'émergence du nouveau, c'est linéariser un processus qui fascine précisément parce qu'il n'est pas linéaire. L'une des manières de s'assurer un cadre analytique pour avancer dans la compréhension du processus créateur consiste en une décomposition de ce processus en phases, dotées chacune de propriétés très contrastées. Cet argument du phasage est bâti sur l'idée de séquences dans le travail qui sont complémentaires entre elles, mais dont l'importance est inégalement visible ou inégalement valorisée une fois que l'attention se fixe sur le résultat, c'est-à-dire une fois l'œuvre produite. Les scientifiques ont, depuis au moins un siècle, examiné la question des mécanismes cognitifs de la découverte scientifique, d'abord à travers des modèles basés sur des récits, comme celui du mathématicien Henri Poincaré, et des témoignages fondés sur l'introspection. L'analyse du processus créateur a été surtout durablement influencée par le modèle des phases du processus d'invention dans les sciences tel qu'il a été proposé par Wallace en 1926. Wallace distinguait 4 phases: préparation, incubation, illumination et vérification. Autrement dit, une impulsion à produire une œuvre nouvelle, le travail d'accumulation d'idées et de matériaux, l'élaboration et les moments de saisissement au début et en cours de travail, puis le contrôle de la valeur des intuitions, des illuminations, des flashs. Le vocabulaire est pauvre pour nommer ce moment-là, qui peuvent réorienter le travail. Ce modèle a évidemment pour centre le moment de l'illumination, aha, eureka. C'est le moment le plus précieux et le plus rare, celui qui paraît arracher l'activité créatrice au sol de tout ce qui est prévisible et qui paraît arracher le travail au contrôle du travailleur. C'est dans les moments qui précèdent, il s'agit bien de travailler à partir du connu, préparer le projet, accumuler les idées, consulter les exemples qui peuvent être des sources d'inspiration, échanger avec autrui sur le projet avant de s'y engager pleinement. Et la deuxième phase dite d'incubation consiste, dans ce schéma très courant, à espérer que les combinaisons et les recombinaisons d'idées, d'éléments, de schémas, d'intuitions vont peu à peu former un ensemble de molécules idéationnelles qui, dans la troisième phase, seront soumises à un salutaire chaos de collisions et d'associations non contraintes et non prévisibles. Cette phase 3 a ses propriétés d'émergence et d'imprévisibilité qui ont toujours suscité une irrépressible fascination à l'égard de l'activité créatrice, parce que le processus paraît échapper aux lois déterministes qui gouvernent causalement notre monde et parce qu'il semble les défier tranquillement, même si la valeur de ce qui en résulte n'est pas pour autant garantie. Voilà la grandeur et l'humilité des défis du travail créateur. Je rencontrais récemment un mathématicien à qui a été décernée la médaille Fields. Ça n'est pas le député En Marche, ni un professeur du Collège de France. Je veux préserver l'anonymat, puisque c'était une conversation privée dont je vais extraire ce propos. Ce mathématicien m'a décrit 2 épisodes d'illumination. Je vous les donne à l'instant. Je cite. « Un jour, je devais me rendre à Roissy. J'étais en voiture et tout à coup, j'ai trouvé la solution du problème sur lequel je travaillais et j'ai commencé à ralentir. J'étais sur l'autoroute A1 entre Paris et Roissy et les automobilistes derrière moi commençaient à klaxonner, à allumer les phares, mais moi, je n'entendais rien. J'étais illuminé par la solution, j'étais en plein bonheur et je ralentissais de plus en plus jusqu'à m'arrêter. J'avais trouvé. » Une autre fois, je suis sorti de chez moi pour aller fumer une cigarette, c'était le soir, et j'ai vu tout à coup dans les volutes de fumée de ma cigarette se dessiner toute la solution compliquée de mon problème, c'était merveilleux. En remontant, j'ai dû retrouver les rythmes familiaux et je suis allé me coucher. Le lendemain, je n'arrivais plus à reconstituer ça. J'ai travaillé comme un fou pendant 1 an, c'était laborieux, je n'étais pas content, les démonstrations étaient de plus en plus compliquées, et pas du tout simple comme ce que j'avais entrevu ce soir-là. J'étais mécontent, mais je me suis accroché et j'ai fini par trouver la solution, mais ce n'était pas aussi élégant. Comme l'indique un article récent de Todd Lebart et des co-auteurs, ces modèles de phasage ont été modifiés depuis une trentaine d'années pour augmenter l'information sur la complexité du processus d'invention créatrice en décomposant le processus en un nombre beaucoup plus élevé de phases et en y incorporant des boucles de rétroaction. On a vu ainsi proliférer les modèles analytiques et le nombre de phases varier de 3 à 9 selon les auteurs. Bien sûr, une source de ces variations entre les modèles concerne les catégories de créateurs ou de chercheurs étudiés. Pour m'en tenir aux artistes, on dira évidemment que les plasticiens, les compositeurs, les poètes, les scénaristes, les designers, les réalisateurs de films ne se comportent pas de la même manière, ou plutôt ne travaillent pas de la même manière. Mais même en neutralisant ce facteur de variation, les auteurs de ces modèles, essentiellement des psychologues, n'ont jamais pu s'accorder sur un schéma intégrateur plus complexe à partir duquel procéder pour approfondir l'enquête de manière cohérente. En réalité, le modèle de Wallace à 4 phases continue de fournir un cadre d'analyse qui s'apparente au plus petit dénominateur commun pour des enquêtes sur le processus créateur dans de nombreux domaines artistiques ou extra-artistiques. Pour aller plus loin, on peut, et ce sera ma seconde grande partie, ma dernière grande partie, aller franchement dans la direction d'une conception du travail de création en termes d'action. Adoptons une formulation simple. Une œuvre d'art est le résultat d'une activité intentionnelle, ce qui implique une série de choix à réaliser selon un ou plusieurs objectifs. Résoudre un problème, condenser ou véhiculer une expérience humaine, jouer avec les règles d'un médium artistique, exécuter une commande, sans parler d'objectifs plus communs, mais non moins importants, gagner sa vie, exercer normalement un emploi. Pour créer cette œuvre, l'artiste, une ou un artiste, dans n'importe quelle discipline, fait initialement face à un ensemble infini de configurations possibles. L'artiste se limite et est limité par des contraintes externes, des impératifs esthétiques, la réutilisation éventuelle de solutions passées, l'amélioration de son travail antérieur. Tout cela permet de réduire l'ensemble des possibilités ouvertes jusqu'à un ensemble gérable. Mais une fois que la production d'une œuvre commence et a avancé, arrivera la décision à prendre sur le point de savoir si le travail est achevé ou non. La citation que je donnais plus haut de Picasso est évocatrice. On rencontre beaucoup de déclarations similaires dans beaucoup d'entretiens, de journaux intimes, de lettres laissées par les artistes. C'est le pendant du constat tout aussi courant et présent dans ces citations de Picasso, selon lequel un ou une artiste n'anticipe pas précisément la nature du résultat auquel il ou elle aboutira. D'où le fait que les modifications sont toujours possibles, que le point exact où un travail doit cesser d'évoluer peut sembler arbitraire. La réponse au problème provient souvent de contraintes externes, un délai de publication, une exposition, une exécution publique de l'œuvre à une date donnée. Elle vient aussi de l'environnement, le travail peut paraître achevé à ceux que l'artiste rencontre et consulte, et l'artiste se laisse convaincre, ou à l'inverse, l'œuvre est jugée inachevée, mais l'artiste la laisse partir, comme Picasso, qui fut convaincu par Canveller de la déclarer inachevée, mais néanmoins qu'elle s'en aille. Bien sûr, il y a un prix à payer pour continuer à travailler à une œuvre. Retarder l'achèvement d'un film augmente les coûts de production et peut avoir un impact négatif sur la réputation de l'artiste et l'empêcher de passer à un autre film ou à un autre travail. Le cas d'Orson Welles est célèbre à cet égard. Malgré le caractère non linéaire du processus, un point d'équilibre est cherché et recherché. Un coup de pinceau de plus peut compromettre le résultat. Mais si je raisonne rationnellement, je demanderai, comme le fait l'historien d'art Michael Baxandall dans un livre intitulé « Patterns of Intention », si ce dernier coup de pinceau était de trop, c'est que le précédent avait été soigneusement soupesé, et qu'il s'inscrit dans une série de choix qui ont conduit jusqu'à lui. Réaliser l'œuvre est donc une affaire de choix à chaque instant et de construction d'une trajectoire de choix. Mais le nombre de choix à faire est si considérable qu'il est absurde de supposer que tous les choix sont le produit d'une délibération consciente et méticuleuse. L'énergie investie à soupeser chaque choix serait paralysante. Bien sûr, des objections à ce raisonnement surgissent, par exemple quand on pense à des situations d'improvisation ou à des états de quasi-transe. Mais le dripping de Pollock, dont on a pu dire qu'il pouvait correspondre à un état de transe, est devenu aussi une méthode pour lui avec sa trajectoire d'apprentissage. À l'inverse, résister à l'impératif de finir peut constituer un moyen de protection contre la contrainte du temps ou contre la rareté des moyens ou tout simplement résulter d'une compulsion perfectionniste. Dans ce cas, ce qu'on appelle en économie le coût d'opportunité, c'est-à-dire pendant que je fais ceci, je sacrifie du temps et des moyens à ne pas faire autre chose, ce qui est une définition ultime de notre condition de mortel, hélas, ce coût d'opportunité peut sembler aussi devenir un gain d'opportunité. Selon l'analyse d'André Green, un psychanalyste, ne pas finir une œuvre ou admettre qu'on ne peut la laisser dans un état qu'on juge inachevé, c'est placer la force du processus créateur au-dessus de la réalisation des œuvres et refuser de clore la situation de peur de constater face aux imperfections qui demeurent que le déclin de l'énergie créatrice est bien là. Cependant, l'exemple fameux du chef-d'œuvre inconnu de Balzac montre aussi la limite de cet espoir du perfectionnement. Le personnage principal du roman de Balzac, je vous le rappelle, Fraunhofer, est un peintre virtuose, célèbre dans toute l'Europe. Il n'a pas de problème pour achever des œuvres, mais pourtant il veut dépasser les limites de son art, dépasser le stade du trompe-l'œil en créant l'image plus vive que nature de la femme et atteindre enfin la perfection en peinture, et comme l'a écrit Marc Fumaroli, pour se substituer à Dieu. Il travaille depuis 10 ans à un portrait de femme pour atteindre cette perfection. L'intrigue imaginée par Balzac montre comment Fraunhofer a donné une leçon de grand art au peintre Porbus en parachevant et en métamorphosant en quelques touches un portrait féminin dont Porbus n'était pas satisfait. Poussin, qui est là aussi, lui propose alors la femme qu'il aime pour modèle afin de l'aider à achever sa toile. Fraunhofer, épris de la beauté de ce modèle, achève très vite l'œuvre et la révèle à ses collègues. Ses collègues découvrent sur la toile achevée, entre guillemets, une petite partie d'un magnifique pied féminin noyé dans une débauche de couleurs, dans une sorte de dripping. Fraunhofer a paru adopter en quelque sorte une stratégie rationnelle pour atteindre la perfection, augmenter démesurément le temps de travail dans une débauche d'efforts, mais le résultat est un désastre et le peintre se suicide. Dans l'œuvre, Zola part du même résultat, un projet grandiose et impossible à achever qui conduit le peintre au suicide, mais les prémices sont inverses. Claude Lantier s'est heurté à l'incompréhension devant ses audaces et c'est pour mettre un terme à ses échecs qu'il s'est lancé dans un projet très ambitieux. Pour rassembler toute la variété des comportements dans le processus de travail créateur, je vous propose de distinguer 5 situations types. Je les présente dans un ordre précis, par niveau de contrôle décroissant de l'artiste sur le cours de son travail, ou pour employer un autre paramètre que j'ai déjà évoqué, par degré d'incertitude croissant sur le résultat. La première situation, c'est celle d'un travail soumis à des contraintes fortes. Il peut s'agir de concevoir une œuvre correspondant à un créneau de marché ou une œuvre destinée à satisfaire des fonctions précises, une musique d'ambiance, une illustration sonore, une affiche publicitaire, un bâtiment industriel ou un roman de gare ou à l'eau de rose, comme on disait autrefois, ou peut-être un roman édité par Ixo aujourd'hui, par exemple de Guillaume Musso. Peu de liberté sera laissée à l'artiste pour s'évader des conventions qui fixent des bornes à son invention formelle. Dans ce cas, un programme ou un cahier des charges peut être fixé au départ qui appelle une mise en œuvre compétente ou virtuose, celle d'un artiste, mais pas une débauche de créativité. Le résultat peut être anticipé assez raisonnablement. Bientôt, sans doute, des robots pourront s'affairer à ce travail dit créateur. Dans la deuxième situation, l'impulsion initiale du projet n'est plus un programme à suivre, mais un problème que cherche à explorer l'artiste ou un concept qui doit agir comme une idée directrice. La question est alors la suivante. Étant donné que la fidélité à cette impulsion initiale ne peut être appréciée qu'une fois l'œuvre achevée, combien d'essais, de tâtonnements et de corrections auront été nécessaires à l'artiste pour s'approcher de la cible en fonction du concept directeur ? Je vais montrer ici quelques vues d'un projet fameux de Rodin. Vous me pardonnerez la miniaturisation des planches, mais voilà de quoi il s'agit. Le Balzac de Rodin est une des œuvres les plus célèbres et aussi les plus controversées du sculpteur. Ce processus de création a été étudié en détail par Antoinette Lenormand Romain à l'occasion d'une grande exposition de l'œuvre au musée Rodin. Nous disposons de quelques 90 versions qui correspondent à autant d'étapes dans un cheminement dont l'orientation a complètement pivoté en cours de route. Je vous donne ici quelques planches parce que c'est à peu près le matériau qui compose ces 90 versions. Je l'ai reproduit d'après le catalogue. Rodin, au départ, pour être fidèle au génie balzacien, est parti d'un parti pris naturaliste en pratiquant une sorte de morphing avant l'heure. Il s'agissait de retrouver le type humain de Balzac en parcourant la Touraine et en cherchant à obtenir une tête dotée de la ressemblance la plus grande possible avec les traits de l'écrivain. Et le corps, lui, devait symboliser par sa corpulence expressive la puissance de l'artiste. Mais au bout du compte, le visage se dote de la plus vive expressivité au détriment de la ressemblance naturaliste et le corps est enveloppé dans une robe de moine comme celle dont Balzac se vêtait pour écrire. le résultat est conceptuel, alors que le choix de départ était naturaliste. Dans une troisième situation typique, nous avons affaire à des projets extrêmement ambitieux dans lesquels les artistes se lancent des défis et repoussent les contraintes pour se renouveler. La prise de risque est plus grande, mais le sens de l'accomplissement de soi plus grand aussi. Le travail doit d'emblée être exigeant. Il peut s'étendre sur des années. La prise de risque étant élevée, ces projets peuvent aboutir à l'échec ou être abandonnés sans être achevés parce que l'artiste repousse les limites sans cesse ou qu'il renonce ou qu'il meurt. Et parmi les exemples d'œuvres ambitieuses et inachevées, nous pouvons citer « L'homme sans qualité » de Musil, « La porte de l'enfer » de Rodin, l'œuvre scénique de Scriabine Mysterium, la symphonie Universe de Charles Ives, le livre de Mallarmé ou Klang de Stockhausen. Mais à l'inverse, la tétralogie de Wagner constitue un de ces projets extraordinairement ambitieux qui a réussi, il est vrai, en bénéficiant aussi du soutien considérable et indéfectible de Louis II de Bavière. C'est sans doute en raison d'ailleurs de l'effet de sidération des compositeurs de l'époque devant cette entreprise inouïe de Wagner, que tant de projets d'œuvres d'art totales, ultra ambitieuses, ont été lancés et ont échoué. L'exemple de Mysterium de Scriabine en fait partie. Un quatrième cas, c'est l'expérimentation qui s'en remet au hasard ou à des algorithmes, l'écriture automatique, la composition algorithmique et, à certains égards, le dripping. Le protocole a été défini au départ et s'il est exécuté rigoureusement, il ne tolérera ni correction ni élimination. Ce cas est marginal, mais il ressurgit régulièrement. Les robots et les algorithmes d'intelligence artificielle nous fournissent déjà la version supérieure de cette expérimentation, comme on l'a vu avec la production par ordinateur d'une nouvelle œuvre de Rembrandt exposée à Amsterdam et qui a été commanditée et sponsorisée par une agence de communication. Enfin, je peux évoquer un cinquième cas, celui d'un travail explicitement fragmentaire dont la progression n'obéit à aucun principe générateur dûment spécifié et ne cherche pas à atteindre une cohérence. On peut penser ici à la correspondance des écrivains qui est publiée et recueillie dans les œuvres complètes ou la tenue d'un journal intime dont la chronologie tient lieu de principe directeur sans autre souci d'organisation. Dans ce cas, les notions d'achèvement ou d'inachèvement ne s'appliquent plus. Le point d'arrêt est l'interruption volontaire ou involontaire du flux. Cette typologie peut être évidemment corrigée et enrichie. Elle est ici construite selon les deux paramètres que j'indiquais à l'instant, contrôle et incertitude. Elle ne doit pas être considérée comme une collection d'alternatives exclusives. Le propre du travail créateur d'un artiste est en effet très souvent d'être organisé en ce que l'on appelait des portefeuilles de projets qui peuvent relever simultanément des différents types que j'indiquais. Certains projets sont menés à bien très rapidement, d'autres s'étendent sur de longues périodes. D'un projet à l'autre, des éléments ou des procédés sont réemployés. Des œuvres d'ambition considérable qui demeurent inachevées peuvent constituer de véritables matrices dont dérive la production d'œuvres particulières. Je pense ici à l'exemple fameux de La porte de l'enfer de Rodin, qui est un glorieux inachèvement et qui occupe une place tout à fait particulière dans sa production. On y trouve inséré plus de 200 figures et groupes, et Rodin puisa dans ce qu'il a appelé ce peuple de figures durant le reste de sa carrière pour en extraire et réélaborer des œuvres aussi célèbres que Le penseur, qui figure en haut, et Le baiser, Les trois ombres, qui sont au sommet, Ugolin, Paolo et Francesca, et bien d'autres. L'un des mécanismes cognitifs qui est ici à l'œuvre mérite d'être rappelé. Tant qu'une œuvre n'est pas achevée, elle demeure plus saillante dans la mémoire de celui qui l'a créée, ce qui permet d'y revenir sans tout reprendre à zéro. Mais une fois la tâche achevée, la mémoire des étapes successives de la production s'efface largement. C'est ce qui s'appelle le Zeigarnik Effect, du nom de la psychologue qui a identifié ce mécanisme. On peut comprendre ainsi comment des œuvres peuvent occuper l'esprit d'un artiste pendant des années ou des décennies. Schoenberg a laissé un oratorio inachevé, L'échelle de Jacob. L'œuvre fut entreprise en 1914. C'était initialement une symphonie avec un final avec chœur et des effectifs énormes. Un orchestre de 270 instrumentistes, un chœur de 2000 choristes, un effet peut-être wagnérien et post-wagnérien. Il a interrompu la composition en 1915, il l'a repris quelques mois après avoir été dégagé de ses obligations militaires en 1917, puis il dut retourner à l'armée quelque temps et reprit ensuite la composition avant de la laisser. Il y travailla de manière intermittente 33 ans, dans les 33 ans qui suivirent. L'œuvre fut finalement mise au point par un de ses anciens étudiants, qui s'appelle Zillig. Inutile de souligner, comme l'a montré une étude détaillée de Jennifer Shaw, que les intentions créatrices de Schoenberg ont pu varier considérablement sur une aussi longue durée, en fonction d'eux et en relation avec tout ce qu'il écrivit dans des formats et des styles qui différaient radicalement de cette symphonie post-romantique typique du tournant du XIXe siècle. On voit bien s'imbriquer ainsi les différents types de comportements que j'évoquais. L'artiste devient le chef d'orchestre plus ou moins virtuose de ses différents projets et son processus de travail peut être très variable d'un projet à l'autre. L'essentiel est de disposer des solutions qu'on apprend à inventer dans le cours de sa carrière pour tisser la trame de cette variabilité. On peut accepter un projet très rémunérateur mais sans grand intérêt créatif et s'affairer en même temps à un projet très formateur, plus risqué, mais sans aucune contrepartie monétaire visible, au moins immédiatement. Et l'attitude assez particulière des artistes à l'égard des différentes espèces de rémunération du travail, je veux dire monétaire et non monétaire, ce qu'on peut appeler les gratifications psychiques, sert à gouverner cette orchestration des projets. La valeur formatrice d'un projet nouveau est une espèce de rémunération. L'accumulation d'expériences et de matériaux au long des projets est un capital sur lequel il est logique d'exercer un droit de tirage. Prenez le cas de Mozart. Selon Ulrich Conrad, qui a étudié ses méthodes de travail, Mozart a constitué un stock de matériaux dans lequel il puisait. Conrad a examiné les manuscrits des œuvres dans les différents genres musicaux. Pendant des périodes bien précises, Mozart a particulièrement concentré son travail et ses intérêts de compositeur sur tel ou tel genre, musique de chambre, concerto pour piano, messe. D'où l'argument de Conrad, Mozart a constitué une sorte de stock pour produire dans ces différents genres. Les fragments qui nous restent sont comme des points de départ ou des idées vers lesquelles Mozart pouvait retourner pour alimenter sa production d'œuvres nouvelles. Conrad parle d'une économie productive, celle de la délimitation de zones d'élaboration créatrice dans lesquelles puiser les matériaux et non pas le mythe du déluge d'idées originales qui submerge l'esprit de Mozart. C'est l'idée fameuse de la main plus lente que l'esprit créateur, que selon les propos qu'on attribue à Mozart, mais qui en fait sont issus d'une lettre qui est un faux. L'image d'un Mozart submergé par sa créativité fait les délices des amateurs de mythologie de l'invention spontanée, puis les délices des pourfendeurs de ces mythologies qui veulent réancrer l'invention dans le travail, quitte à effacer les coefficients inexpliqués d'inventivité au profit d'une exclusive célébration de l'effort, ou comme on l'appelle, de deliberate practice, pour citer un modèle connu d'analyse opposé à l'argument du talent. Je vais conclure et je vous remercie de votre patience. J'espère que votre attention n'est pas encore tout à fait épuisée. Je n'ai pas grillé grand-chose de tout ce qui constituait la matière de la génétique littéraire et musicale, la documentation par l'artiste de son travail créateur, dès lors que écrivains et compositeurs se sont mis à conserver et léguer leurs archives à partir du XIXe siècle principalement. L'étude de ces matériaux a ouvert la voie à des analyses irremplaçables sur le travail créateur au plus près des études de cas et de leur singularité. J'ai moi-même examiné, mais pas au point d'aller jusqu'aux archives viennoises, le travail compositionnel de Bruckner, qui est connu pour avoir révisé nombre de ses symphonies et pour avoir suscité ainsi un désordre considérable dans l'édition de ses œuvres. Les arts du spectacle, musique et opéra, théâtre, danse, présentent un intérêt tout particulier pour l'enquête sur le travail de création. D'une part, le travail implique tout un ensemble d'artistes, créateurs et interprètes, et leur relation peut faire l'objet de recherches précises pour montrer comment se forment, se déforment et se transforment les relations de collaboration, mais aussi de compétition directe et indirecte. La compétition directe signifie, par exemple, que les interprètes, notamment en musique, font face au problème de l'écart entre le répertoire classique et la création contemporaine, le répertoire procurant des chances d'emploi et des moyens de faire valoir aux interprètes leurs qualités distinctives davantage que l'interprétation des œuvres contemporaines. Les cas nombreux de collaboration directe entre des interprètes et des compositeurs et compositrices permettent cependant de déplacer aussi l'analyse et de mettre en évidence d'autres gratifications que la renommée immédiate. Par compétition indirecte, je veux parler, par exemple, du flux d'innovations esthétiques et organologiques qui, en musique, ont étendu et modifié la définition du répertoire passé, notamment à la faveur de la révolution baroque. Les interprètes des musiques préclassiques se concurrencent en augmentant l'amplitude des décisions à prendre sur un nombre très élevé de paramètres, ce qui diffère beaucoup de la concurrence de l'interprétation du répertoire classique, romantique et moderne. Les partitions préclassiques sont, comme on le sait, dotées de notations relativement pauvres par rapport à la période qui suit. Les interprètes soumettent ainsi les compositeurs préclassiques et leurs œuvres à une variété croissante de traitements esthétiques. L'opéra met en évidence, avec un relief tout particulier, ce qui s'appelle le processus de socialisation des œuvres et son évolution dans l'histoire, tel qu'il a été, par exemple, magistralement étudié pour l'opéra italien par Philippe Gossett, grand spécialiste de Rossini et de Verdi. On voit s'affairer tout un monde de décideurs, les compositeurs, les directeurs de théâtre, les éditeurs, les agents des chanteurs, les chanteurs eux-mêmes, les librettistes, la censure politique et, à partir du XXe siècle, les metteurs en scène, avec des équipes de plus en plus nombreuses réunies autour du metteur en scène, dramaturge, concepteur des éclairages, des costumes, etc. Chacun a ses raisons d'agir, ses contraintes, ses préférences. Le travail de création entre dans l'espace des négociations et l'autorité du créateur agit dans des limites qu'il ne peut desserrer qu'à un certain prix. Bien évidemment, les opéras célèbres pour leur inachèvement ou pour leur destin chaotique de création constituent des énigmes autant que des aubaines pour des opérations de redécouverte ou de récréation. Pensez à Loulou, à Don Carlos, au Comte d'Hoffmann ou à Boris Godounov. Dans ce peuplement du générique de production des œuvres, la distribution des droits matériels et moraux sur l'œuvre est une matière complexe et très variable selon les arts. Le cinéma et la poésie peuvent occuper les deux positions extrêmes sur l'axe que l'on peut dessiner de la complexité des arrangements organisationnels. Le propre du travail artistique et d'augmenter considérablement le nombre de facteurs de variabilité des cas par rapport à d'autres formes de travail. Dans ce générique, les créateurs eux-mêmes, les créateurs du passé eux-mêmes interviennent pour et contre ceux du présent. Les arts sont plus qu'aucune autre activité orientés dans deux dimensions opposées. La conservation très sélective du passé qui compose les musées, les patrimoines, les bibliothèques, les répertoires, et la sacralisation de la nouveauté et de la différenciation incessante sous la règle de l'originalité et de la prohibition de l'imitation. Ces deux forces engendrent des relations complexes entre les créateurs du passé et ceux du présent, rivaux et soutiens. Quand le musée Rodin associe dans ses expositions les œuvres du sculpteur et des œuvres contemporaines, il réalise ce transfert de réputation du passé vers le présent, au nom de la fertilisation croisée des regards des spectateurs sur le contemporain à la valeur et aux significations incertaines et sur le passé à la valeur certaine et aux significations indéfiniment renouvelables. La relation entre répertoire et production contemporaine en musique dite sérieuse nous fournit ici un terrain d'expérience séculaire. On voit ainsi, et c'est mon mot de conclusion, que travailler à créer, c'est cultiver la puissance de l'oubli et la puissance de la mémoire simultanément. Sans l'une, on ne s'arrache pas du sol. Sans l'autre, on dépérit dans l'apesanteur, c'est-à-dire la non-pesanteur. Merci pour votre attention.
Merci. Vraiment, c'était un exposé extrêmement riche, extrêmement intéressant, et voilà, qui donne vraiment à penser sur notre démarche de création. Moi, j'ai été particulièrement intéressée justement par la part justement que moi je peux appeler la part de l'inconscient, dans la création, ce que vous avez justement décrit à travers le mathématicien qui, tout d'un coup, trouve la solution, la part de l'immédiateté de l'intuition, et tout le travail que ça suppose après. C'est-à-dire, justement, pour cette fulgurance, et appelle un travail d'autant plus grand ensuite pour pouvoir fixer cette fulgurance. Et ça, c'est une chose que, personnellement, je vis énormément dans la composition. C'est-à-dire, vraiment, la fulgurance de l'idée musicale qui, ensuite, nécessite, justement, qu'on note de façon extrêmement rapide pour ne pas l'oublier, et ensuite qui nécessite, justement, tout le travail technique pour la réaliser.
Absolument.
Donc ça illustre tout à fait, je me suis tout à fait retrouvé dans ce que vous disiez à ce sujet.
Il y a un célèbre modèle d'un psychologue, vous voyez que je cite toutes sortes de sciences sociales, j'adore être indiscipliné et j'ai appris qu'il ne fallait pas montrer de passeport disciplinaire pour être un peu inventif ou du moins espérer l'être ou espérer le rester. Et il y a un modèle très fameux d'un psychologue qui était un personnage extraordinairement imaginatif, qui s'appelle Donald Campbell, et qui est exactement parti sur ces bases en insistant beaucoup sur les problèmes de sélectivité dans le tri des solutions qu'on a imaginées dans ces périodes chaotiques et fulgurantes, à certains égards si précieuses, et à d'autres égards parfois extraordinairement décevantes, quand on s'aperçoit que éventuellement ce qu'on a fait ne peut pas résister. Et ensuite, le mécanisme se boucle, et il faut apprendre à le contrôler. Il faut apprendre à ne pas être trop déçu par la fertilité de son imagination, et il faut apprendre à être opiniâtre, et c'est un... En ce sens-là, l'introspection, c'est vrai qu'elle dit quelque chose qu'on a du mal à fixer exactement à coup de caméra et de machine IRM qu'on pourrait espérer, mais on voit bien que quelque chose est cerné à travers ces phasages du travail créateur.
Je pense à ce sujet à Berlioz qui disait qu'il avait des idées comme ça fulgurantes et qu'il testait parce qu'il n'avait jamais de quoi les noter, il les écrivait sur ses manches en celluloïde.
Voilà. Oui. J'ai l'habitude, mais un peu moins maintenant parce que c'est un peu plus compliqué, de partir quand je suis à vélo et que je sors de mon bureau et que je prends mon vélo, de prendre un carnet.
Un carnet.
Mais avec le trafic et le chaos de la circulation, c'est un peu plus compliqué.
Alors, est-ce que... Bien sûr, nous allons maintenant engager la discussion, les questions sur cet exposé passionnant. Oui.
Une question. Alors, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, mais qui était... Enfin, il me semble que vous n'avez pas prononcé, peut-être qu'il a été prononcé, mais... qui est sous-jacent, c'est la notion du doute. Et c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui... Vous citiez Picasso, il disait « je ne cherche pas, je trouve ». Mais en fait, il y avait une sorte de paradoxe dont il disait ça. C'était ce qu'il faut bien voir, qu'au moment où on est... quelqu'un qui ne se pose, qui n'est sûr d'aucune question, donc ça veut dire qu'il est effectivement sûr de l'œuvre, à peine il l'a commencé, il est déjà vers la fin, c'est assez triste. Et peut-être que ça retrouve ce dont vous parliez avec ce Zeigarnik effect, c'est-à-dire cette notion au fond, qu'à partir du moment où on est sur une œuvre inachevée, ce qui au passage d'ailleurs, pour un artiste de lancer une œuvre inachevée, c'est presque tolérer la notion d'œuvres transformatives qu'on commence à voir sur Internet et que je trouve extrêmement dangereuses, surtout quand elle est conçue, alors que l'œuvre, par contre, a été estimée achevée par son créateur, évidemment. Il y a quand même se dire est-ce que c'est dans ce Zeigarnik effect qu'il faut aller trouver la réponse pour laquelle il fait que lorsque nous considérons certaines de nos œuvres de jeunesse et qu'on voit leurs imperfections, et qu'on se dit « mais bon sang, pourquoi j'ai fait ça comme ça ?» On s'aperçoit, pour un musicien, pour un plasticien, c'est évidemment différent. Pour un architecte, aller revoir la construction 20 ans après pour changer une aile, c'est probablement plus compliqué. Mais pour nous, au moment d'une révision d'une œuvre, on s'aperçoit que si on entend par révision le fait de se dire « attends, j'avais pas très bien orchestré ça, j'ai quand même appris depuis le temps qu'il ne faut pas mettre 3 trombones comme ci, qu'il valait mieux, etc. » Bon. Et qu'on va affiner certains détails, qu'on va se dire arrête de mettre 40 mesures à la flûtin et la deuxième qui fait rien fait un peu un relais pour que d'abord le deuxième s'endorme pas et tout. Bon, ça c'est le métier qui nous a appris ça. Mais on s'aperçoit que si par contre on va plus loin sur des détails, c'est-à-dire qu'on se dit il y a quand même un problème de structure, Il y a une chose qu'il faudrait vraiment que je repense, et que sur une œuvre qui est assez ancienne, qui a été publiée, que nous considérons donc, entre part, comme achevée, qu'on la retouche au grand dam de notre éditeur, auquel ça ne plaît pas toujours, on s'aperçoit que pour un joli fil bleu qu'on va faire pour arranger quelque chose, il y a 3 fils rouges d'effets pervers qui surgissent et qui font que finalement, il y a un moment donné, ou bien on les détruit, ou bien nos œuvres de jeunesse ou autres, on les assume avec leurs imperfections, on estime qu'elles font partie de nous, qu'elles font partie de l'œuvre, et puis après tout, c'est de temps en temps rassurant de voir quelques œuvres intéressantes, mais pas géniales, de compositeurs absolument géniaux qu'on admire tellement pour des chefs-d'œuvre absolus. Donc, dans ce rapport du doute et de l'œuvre qu'on ne peut pas reprendre, finalement,
oui.
Hein, est-ce que c'est vraiment, vous voyez, donc, par ce que vous appelez le Zeigarnik Effect, cette idée qu'on ne peut retravailler sur une œuvre réellement que tant qu'on l'a considérée comme non achevée, mais à partir du moment où on a mis le point final, c'est presque une mission impossible?
Je crois que c'est ce qui est en tout cas impliqué dans l'observation qu'a faite cette psychologue. C'est tout à fait ça. Et c'est un mécanisme que chacun peut vivre tranquillement. C'est effectivement, quand on travaille à quelque chose, on est à la fois dans un océan de choix à faire qu'on arrive à maîtriser plus ou moins. Et donc, on a des raisons d'agir, conscientes ou moins conscientes, comme je l'ai dit, mais qui s'accumulent. Et on les maîtrise assez bien parce qu'on maîtrise une progression qu'on ne peut pas décrire de manière strictement rationnelle. Mais on doit s'attacher à la maîtriser. Et on prend toutes sortes de décisions. Mais cette mémoire des décisions ne peut pas être fixée intégralement. Elle est processuelle. Et une fois qu'on a achevé la chose, cette mémoire doit s'effacer. Parce que la mémoire doit se désencombrer de cette affaire. Et quand on y revient, effectivement, on voit bien que le problème, c'est comment est-ce que je peux me remettre exactement dans les conditions qui ont permis d'arriver comme ça. Et ça, c'est impossible par définition. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et surtout pas dans le même fleuve mental. Cela dit, il y a des solutions possibles. Je repense à des conversations que j'ai eues avec Boulez là-dessus.
J'allais le citer.
Qui était un virtuose de la question de l'inachèvement, de la révision et de la réélaboration. Et je crois qu'il m'avait dit 2 choses parmi bien d'autres. Premièrement, qu'il apprenait à travers son métier de chef d'orchestre à réorchestrer des œuvres ou à les réviser. Parce qu'il trouvait dans ce qu'il dirigeait des solutions qu'il réincorporait dans la production de ses œuvres et qui lui permettaient de réviser l'orchestration notamment. Et deuxièmement, il est sans doute plus facile de procéder à des révisions comme celles auxquelles vous faites allusion quand on travaille sur des pièces, on travaille un peu de manière modulaire. Parce que là, la trajectoire de l'œuvre est peut-être plus facile à contrôler que dans une œuvre qui a une totalité organique très sophistiquée et qui obéit à une loi interne de croissance ou d'expansion qui est très difficile à reconstituer ensuite. Mais de fait, quand on observe la production de Boulez, sans faire de la musicologie d'amateur, on voit bien que le choix des formes courtes peut correspondre à quelque chose comme ça, une sorte d'efficacité dans l'obsession de la révision, si on peut dire, ce qui est une forme de contradiction aussi, mais peut-être pas inefficace.
Aymeric Zoubléna.
Je reprends la comparaison que vous avez faite tout à l'heure dans le travail créateur en citant le poème et le film à l'autre bout. Alors moi, je prendrais le poème et l'architecture. Et dans le cas de l'architecture, à quel moment on peut considérer qu'il y a l'œuvre ? Peut-être au moment du premier croquis, c'est intéressant de penser ça, c'est presque un peu romantique. Mais dans l'esprit du public, dans une vision de bon sens, l'œuvre n'existe en architecture que lorsqu'elle a pris son poids, lorsqu'elle est sur le lieu. Alors à ce moment-là, la question que je pose, c'est où commence et où s'arrête le travail créateur ? Les architectes qui sont présents ici savent qu'à partir de l'esquisse, il y a toute une étape qui se développe, qui passe par un certain nombre de plans nécessaires pour qu'on puisse aboutir à l'œuvre finale. Et même durant la phase de chantier, il y a encore des modifications. Il y a donc encore un acte créatif. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, l'acte de création s'étend sur une période très longue pour ce qui concerne les architectes. En ce qui concerne maintenant l'œuvre achevée, je pense que c'est ce que l'on construit, ce sont les bâtiments sur lesquels, au fond, il n'y a jamais d'œuvre achevée, en ce sens que je notais là, Saint-Pierre de Rome, est-ce que c'est Bramante, c'est Michel-Ange ou c'est Maderna? Je pense, François Chalin va certainement sourire, je pense à une opération de Le Corbusier qui est Pessac. Le Corbusier est fait pour un industriel quelques bâtiments, et puis ces bâtiments sont récupérés par ceux qui y logent, et qui les transforment totalement, et posant la question à Le Corbusier, mais est-ce que vous n'êtes pas choqué de ce qu'en ont fait les habitants? Et à mon avis, la création de la part des habitants était pas du tout dans le sens du créateur qui était Le Corbusier. Il aurait dit, bah, écoutez, c'est très bien, c'est ainsi que doivent vivre les œuvres. Alors, là, c'est un cas limite, je prends un cas limite. Mais je dis simplement que, je reviens, la durée, le nombre des intervenants, l'évolution entre le premier croquis initial et puis son achèvement, et puis l'intervention d'autres personnalités qui créent.
Oui, il y a plusieurs réponses à cette très bonne question. Comme la précédente, elle sollicite beaucoup l'exercice de l'imagination scientifique. La question est celle de... D'abord, une des réflexions habituelles des sociologues consistera à dire... Le travail de l'artiste, malgré sa singularité et l'individualisation extrême des droits de propriété et d'attribution des responsabilités au cœur du processus, c'est-à-dire au créateur, c'est un travail collectif. Il comporte une chaîne de coopération plus ou moins longue. Évidemment, l'architecte que vous désignez dans votre question est au cœur d'une chaîne assez longue et à l'inverse, le poète, lui, peut éventuellement créer dans sa chambre et mettre tout sur Internet et c'est réglé, il n'a même pas besoin de l'éditeur. Et ça se fait beaucoup. Donc, c'est une première question et à travers ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que pour que les gens coopèrent, il faut qu'il y ait tout un ensemble de conventions qui permettent à tout le monde de se comprendre sans avoir en permanence à tout réinventer. Ça, c'est une culture professionnelle, ce qui veut dire aussi que le risque est de figer, à travers les règles de coopération, de figer les processus. Et donc l'innovation, elle a toujours un prix qui est, si je veux changer la manière de faire et dire, moi, on m'a dit que c'était impossible, eh bien non, je ne veux pas, je vais prouver que c'est possible. Il va y avoir un prix d'élaboration, etc., de négociation. Voilà un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est de soumettre le processus de la construction architecturale à une analyse. Et j'étais dans un jury de thèse d'architecture il y a quelques mois, et il était question du concours pour l'Arche de la Défense. Et donc l'analyse que va faire le sociologue, c'est de dire, mais à quel moment se prend la décision la plus importante, celle qui engage tout le processus et qui le déclenche en quelque sorte. Et c'est vrai que dans un processus de commande et de concours, c'est vrai que le travail de mise au point des esquisses et du projet est la période cruciale, puisque c'est à partir de ça que le concours va être accordé ou attribué à tel ou tel architecte. Donc, on peut dire que l'essentiel de la décision a été concentré sur ce moment-là. Et en l'espèce, ce cas du concours de l'Arche de la Défense était absolument remarquable parce que le projet qui avait été sélectionné au premier tour est un projet qui n'a jamais gagné, alors que celui qui avait été considéré comme le plus aventureux est celui qui a fini par émerger, à travers notamment l'influence extraordinaire d'un membre du jury qui était Richard Rogers, qui a agi pour, en quelque sorte, je pense, à travers toutes sortes de compétences, modifier la vision qu'avaient les membres du jury de la situation. Ensuite vient le problème du déroulement. Alors là, je dirais que autant, et je pense que si vous vous référez à ce que j'ai dit dans l'exposé, je pense qu'autant la période ou la partie de la production du programme et de l'esquisse initiale, c'est la partie où il y a le plus de variabilité possible dans les décisions à prendre. Et ensuite, la réalisation, c'est une forme de travail en entonnoir où on doit réduire progressivement, par la trajectoire même de production, réduire progressivement l'espace de choix sans s'interdire éventuellement des modifications. Mais c'est une situation où on va en cylindre, on va progressivement augmenter le contrôle sur l'activité. Nous, tout simplement parce qu'il faut pouvoir s'assurer de la coopération efficace de tous ceux qui sont impliqués dans le processus. Voilà, et c'est en somme la collision entre une analyse du travail créateur et une analyse de l'organisation d'un travail créateur. L'organisation a besoin de routine, au pluriel, c'est-à-dire de manière habituelle de faire pour éviter l'incertitude qui est dans ce cas-là fâcheuse, alors que l'artiste a besoin au départ d'un espace de choix beaucoup plus large avant de résoudre ses problèmes. Et enfin, l'exemple que vous donnez de Pessac, c'est un fameux débat sur est-ce que l'appropriation d'une architecture fait partie des clauses initiales qui ont été fixées pour cette œuvre-là. Il y a deux réponses, évidemment. On peut dire si ça viole intégralement le protocole, on constatera que l'arbitraire règne. Mais on peut dire aussi que, et c'est une observation qui est très fréquente, quand une œuvre est capable de traverser le temps, il vaut mieux qu'elle suscite une pluralité d'appropriations parce qu'elle reste interrogée. Si elle n'est plus interrogée, elle dépérit.
Bravo. Pierre Caron, vous vouliez intervenir ? Peintre.
C'est de la peinture. Je me situe plus du côté du peintre.
Oui.
Si j'ai bien compris, si je schématise, vous avez montré l'alternance entre décision et abandon. Mm-hmm. J'ajouterai une phase qui est de reconnaître pour l'artiste quelque chose qu'il ne savait plus et que l'on peut peut-être qualifier rapidement les impressions coulées.
Les impressions coulées.
Ah.
C'est l'immersion. Oui.
Donc, comment ne pas être absolument en accord avec ce processus, le pratiquant par expérience chaque jour. Mais une question reste, est-ce valable pour l'enlèvement des Sabines de David, Giotto ou l'art antique?
Oui, très bien.
C'est une colle.
Non, c'est... D'abord, ce que vous appelez l'impression coulée, c'est au fond la définition du savoir de Socrate, c'est le ressouvenir. C'est une manière de se réapproprier ce qu'on sait déjà. Et l'œuvre vous interroge, elle vous adresse des questions, et tout d'un coup, elle déclenche chez vous le sentiment que vous savez déjà ça et que vous aviez oublié que ça existait chez vous. Et c'est... Voilà, et ça réapparaît. C'est une définition possible de la maïeutique intime entre l'œuvre et celui qui la crée. Voilà. Ensuite vient la question de quel est l'écart entre des outils analytiques aussi généraux que ceux que j'ai présentés et les analyses de cas, évidemment. Bien sûr, et je ne vais pas faire comme dans Mysterium une conférence de 24 heures. Ça serait un peu long. Mais c'est dans les analyses de cas qu'on va évidemment mener l'enquête sur ce qui se passe au juste. Et là, je dois dire, d'une part, en préalable, qu'un sociologue se sent tout petit par rapport à un historien d'art ou un musicologue. Ça n'est pas son métier. Et quand je connais le travail de mes chers collègues musicologues, historiens d'art ou spécialistes de littérature, je me sens évidemment d'une incompétence totale. Une expérience fulgurante a été une visite au musée du Louvre avec un ami historien d'art, Alain Méraud, et je me suis aperçu que c'était surtout pas comme ça qu'il fallait que je fasse mon métier de sociologue en m'aventurant sur un terrain où je serais battu d'avance. En revanche, des questions peuvent surgir et on peut réintroduire de la variabilité à travers les questions qui suggère éventuellement d'autres points de vue sur une matière que les historiens d'art pensent pouvoir, en quelque sorte, enfermer dans leur spécialité. Et l'artiste, a fortiori, se vivra singulier et absolument singulier. D'une certaine manière, la question que vous m'avez posée, c'est celle de l'originalité étant le coefficient numéro un de l'action, comment pouvez-vous espérer effacer ça à travers une science de la généralité sur des problèmes de singularité et d'originalité? Mais il y a tout de même des solutions qui consistent, par exemple, à faire des études de cas. Et je me suis intéressé, et je ne désespère pas de faire un cours entier sur ce sujet, à quelques cas, par exemple celui de Rodin, qui m'a tout à fait fasciné. Je ne suis pas aussi de loin aussi virtuose sur l'étude de Rodin que les conservateurs du musée Rodin. Et une expérience magnifique a été la visite des ateliers ou des réserves du musée Rodin à Meudon avec Antoinette Lenormand Romain. Voilà, j'étais intrigué par le fait qu'il y avait 6000 œuvres dont 2000 avaient un titre. Et alors, qu'est-ce que c'est que la qualification d'œuvre? Donc, il faut choisir des niveaux de problématisation. Par exemple, qu'est-ce qu'une œuvre? Dans le cas de Rodin, et comment agit-il, comment compose-t-il, par modulation, etc. Est-ce que son action est gouvernée, par exemple, par des processus de commande publique qui sont très contraignants? Il ouvre son atelier à la visite externe, et puis il se sent envahi, il referme, il décide de ne pas réagir à des impératifs, ou au contraire, et j'ai étudié aussi, par exemple, la fameuse tour du travail, qui était un projet qui devait ressembler à une sorte de colonne Trajane. Il y avait des concours de l'époque sur ce sujet-là, on voulait créer une tour du travail, et la solution de Rodin contrastait fortement avec celle de Dalou, par exemple. Et donc, ce sont des enquêtes de cas. Et ça permet d'aller, évidemment, d'essayer de déployer cette argumentation, mais en la faisant, évidemment, coller à des matériaux très précis. Quand j'ai étudié ce cas de Bruckner, ce qui m'a intéressé, c'était évidemment pas de soupeser toutes les décisions que Bruckner prenait pour dire ou non je dois réviser, c'était de dire mais qu'est-ce qui se passe quand je commence à réviser? Et il se trouve qu'il introduit tellement de corrections qu'à un moment donné, parce que l'œuvre va être créée, son éditeur ou ses éditeurs lui disent « Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ?» Il y a plus de 10 000 feuillets de corrections. J'ai écrit à celui qui était l'auteur de l'édition complète de l'œuvre de Bruckner, avec qui j'ai entretenu une correspondance. Je ne prétends pas avoir son savoir, heureusement, et tant mieux, c'est ça la division du travail, et le bénéfice de l'enrichissement avec une collaboration avec autrui. Mais effectivement, le problème était pour moi celui de qui contrôle quoi. Parce qu'il y a un cas fameux qui est que les élèves de Bruckner étaient chargés de mettre au point l'édition et ont décidé de se passer des avis de Bruckner parce que chaque fois qu'il revenait vers lui, Bruckner disait « Ah non, 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 je vais encore changer ». Et donc, c'était plus possible. Et donc, ils ont décidé de faire les choses à sa place. Et Bruckner était extraordinairement surpris quand il a vu le résultat parce que ça ne correspondait pas du tout avec ce qu'il pensait être le bon résultat. Et il a pris ses manuscrits sous le bras et il est allé les porter à la bibliothèque de Vienne en disant « Désormais, c'est ça qui fera foi ». Et ça n'est certainement pas le travail de quelqu'un en qui j'avais toute confiance. Et voilà. Donc, dans ce cas-là, vous travaillez sur des problèmes, vous réglez vos outils pour, par exemple, considérer que c'est un problème d'organisation du travail. Qui a autorité sur quoi et comment on s'y prend? Parce que le cas de Bruckner est un cas aussi fameux ensuite en raison de la multiplicité des éditions qui ont circulé. Ça a été un chaos indescriptible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce que chaque édition et chaque partition éditée, même fautivement, est en quelque sorte le reflet ou incorpore quelque chose de son environnement de l'époque? Ou est-ce qu'il faut la disqualifier au nom d'une solution absolument pure et parfaite? Voilà des questions qui interrogent. Et c'est une manière de vous dire simplement que l'essentiel de ce qui est intéressant dans les sciences sociales, mais aussi dans la création, d'une certaine manière, c'est la variabilité. Et ensuite, ce qui est à expliquer, c'est l'inertie. Mais ce qui est donné au départ, c'est la variabilité.
Je rebondis sur cette dernière remarque. J'aimerais beaucoup savoir quelle position tu as sur l'œuvre qui était à la mode dans les années 70, l'œuvre ouverte.
Oui.
Oui.
Oui, ça c'est intéressant.
L'œuvre ouverte, c'est un protocole pour beaucoup. C'est un protocole avec, là il faudrait évidemment déterminer exactement la sémantique de l'œuvre ouverte et les modalités de pratique de l'œuvre ouverte, mais c'était un protocole qui libérait une partie de l'inventivité, mais une partie seulement, et il y avait tout de même, de toute façon, une trame. Donc c'est une sorte de solution entre 3 et 4. C'est un cas intermédiaire si on veut, mais d'ailleurs c'est un cas intermédiaire qui a posé des gros problèmes de coopération parce que il fallait les interprètes. Il y a un moment, c'est comme toujours dans les phénomènes où il y a beaucoup de variabilité, il y a un point d'inflexion. On gagne à ouvrir et puis il y a un moment où ça s'infléchit, ça se retourne dans l'autre sens. Parce que le nombre de décisions à prendre est trop grand et que se pose la question de l'autorité exacte de qui, sur quoi, et quelle est la nature ou la dénaturation possible de la trame initiale en fonction de l'inventivité de l'interprète. Et donc, alors, on peut décider que toute proposition qui correspond au protocole qui a été défini est une proposition valable. La question est... est-ce que ça tient ou ça ne tient pas? Et le même Boulez qui avait dit assez de balistique du sérialisme généralisé a dit ensuite non, l'œuvre ouverte qu'il pensait être une solution ne va pas non plus assez loin dans le protocole. Autrement dit, c'est la question de quel est le contrôle que je peux exercer sur quoi et où s'arrête mon contrôle et où ça commence celui d'autrui. Et qu'est-ce que j'accepte de déléguer comme contrôle à autrui? C'est encore un problème d'organisation, d'une certaine manière.
Et l'œuvre intuitive à la Stockhausen encore plus.
Voilà, on peut dire ça aussi. Absolument.
Laurent Petit-Germain.
J'ai remarqué, en parlant souvent avec des confrères, alors peut-être que mes confrères ici auront une sensation différente, que quand vous parliez tout à l'heure du rapport avec notamment à un moment donné la façon dont une œuvre est reçue, mais qui même allait au suicide parfois, bon,
oui.
Et que finalement, c'est une question qu'on m'a souvent posée en tant que chef d'orchestre, mais comment vous faites pour composer quand vous avez dirigé le Sac du Printemps le matin ou le soir, ou Daphnis et Chloé, ou quels sont les chefs-d'œuvre absolus de la musique? Et est-ce que c'est pas angoissant? Et même paralysant. Et finalement, je me suis rendu compte en parlant avec mes confrères que beaucoup avaient la même sensation que moi, c'est-à-dire de se dire que finalement, c'est bien pratique de se cacher derrière Mozart, Stravinsky, qui voulait en disant « bon, il y a ces exemples extraordinaires, donc c'est des génies hors du commun ». Et que regarder son œuvre en comparant tout ça, bon, c'est tellement comme ça, finalement, c'est presque un peu, c'est une façon de se rassurer. Ce qui est beaucoup plus angoissant, c'est de se dire, mon bonhomme, va pas chercher Beethoven, va pas chercher Stravinsky, blablabla. Regarde simplement ces 20 secondes que tu sais réussir dans ta propre musique. Est-ce que tu es réussi à revenir à ce niveau-là? Que toi, tu sais, même si le public ne le sait pas, toi, tu sais qu'à ce moment-là, tu as touché quelque chose. Et finalement, est-ce que... Je me suis rendu compte que, quand même, chez plusieurs de mes confrères, vous dites, l'inquiétude vis-à-vis du sentiment peut-être erroné, mais du sentiment qu'on a à un moment donné d'avoir tapé là où on voulait taper et d'avoir réussi au moins quelque chose, c'est beaucoup plus angoissant que de se comparer au chef-d'œuvre inaccessible finalement.
Oui, oui. Tout ça sont des vrais questionnements qui correspondent bien à cette gestion de cette double temporalité, c'est-à-dire... L'art, comme disait Hannah Arendt, a cette propriété de traverser le temps, mais elle devient aussi assez encombrante parce que le temps pèse, comme les créateurs sont priés de se jucher sur les épaules des géants. Et que vont-ils faire, sinon essayer de prendre la place des géants? Il faut à la fois un orgueil démesuré et une humilité considérable pour faire ce genre de métier, dans ces conditions-là, évidemment. Mais c'est... D'une certaine manière, ces problèmes sont un des mécanismes d'autosélection de ceux qui vont franchir les épreuves successives d'une carrière. S'ils ne résistent pas à cette pression, ils s'éliminent. Et ce monde est un monde cruel, d'une certaine manière, parce que les épreuves sont constantes et répétées et qu'il faut pouvoir les traverser. Et pour les traverser, il faut avoir un mécanisme qui est très utile et très paradoxal, c'est la surestimation de soi. Si vous ne vous surestimez pas, vous ne résistez pas à l'incertitude.
Et, bravo.
Et en même temps, si vous vous surestimez constamment, vous n'apprenez rien. Donc, il faut jouer avec ça. Ce sont des forces qui se composent et qui ne sont pas des simples mécanismes uniques. Alors, la chose que vous dites, c'est aussi une réflexion qui est faite, par exemple, qu'a faite un économiste très intelligent et très, très inventif qui s'appelle Albert Hirschman, qui dit « Dans le travail non routinier, il y a des moments fugitifs où on entrevoit un résultat possible et on s'en réjouit considérablement avant de replonger dans le labeur et le tâtonnement qui va éventuellement vous décourager. » Autrement dit, c'est une sorte de sinusoïde entre des périodes d'exaltation qui permettent d'augmenter considérablement les possibilités et des périodes de contrôle à froid où on se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait là au juste ? Il y a peut-être 90% qui ne vont rien. » Et donc, mais il faut traverser ça. Et ça recommence tout le temps et tout le temps. Et donc, c'est un mécanisme absolument fascinant à voir. Mais c'est la rançon de cette variabilité dans le travail.
Et c'est précisément le travail qui nous permet de traverser ça.
Exactement.
Le travail régulier.
C'est cette définition-là qui est celle-là. Exactement.
Alors, Claude Abeille, sculpteur.
Oui, je m'excuse d'avance, je vais parler un peu de moi. Je me suis aperçu une fois ou deux, à 4 heures du matin, me réveillant, comme ça, j'avais eu la solution pour terminer une de mes sculptures. Donc j'étais assez content. Et plusieurs fois ensuite, je me suis dit, je vais me réveiller à 4 heures du matin. Et ça ne s'est plus jamais produit.
Oui.
Bon.
C'est très joli.
Je voulais aussi parler de l'originalité. Alors, il se trouve que j'ai enseigné le dessin à des jeunes de 18 ans. Et le dessin, c'est-à-dire, il y a un modèle qui pose et on essaye, pour apprendre quand même à voir et à tenir un crayon, on essaye de tout de même rendre compte de manière assez juste, je dirais, du modèle qui est devant soi. Et à ce moment-là, les étudiants, ils me disaient « Oui, mais il faut être original, etc. C'est l'originalité qui compte. » Enfin, il y avait tout un esprit comme ça. Et j'étais quand même un peu responsable de cet enseignement. Je me disais « Mais comment faire ?» etc. Et alors, j'ai trouvé un truc. Je disais à mes étudiants « Surtout, ne soyez pas original. » Vous avez dû constater que parmi vos amis, il y en avait un qui dessinait, à votre avis, très bien. Eh bien, essayez de dessiner comme lui. Et à mon grand étonnement, ils n'y arrivaient pas, mais eux-mêmes commençaient à faire des progrès incroyables. Si bien que l'originalité, je me suis toujours demandé ce que ça pouvait bien être, et que je n'y crois pas beaucoup. Voilà. Et d'autre part, une critique sur l'utilisation de tous les instruments électroniques pour refaire une peinture de Rembrandt.
Ah oui.
Je trouve que c'est scandaleux, tout simplement. Mais on devrait plutôt essayer, avec des instruments électroniques, de reconstituer de manière visible et évidente, par exemple, la bataille d'Austerlitz, avec tous les morts, tous les canons, il y aurait tout, que ça, on referait ça de manière électronique, ce serait extraordinaire. Voilà. Donc là, il y a une utilisation de la technique pour faire soi-disant un Rembrandt que je trouve monstrueux.
Merci. C'est évidemment, le cas de Rembrandt est un cas fameux parce qu'il y a eu une très longue opération de toilettage du corpus de Rembrandt, parce qu'on ne savait pas ce qui était de la main de Rembrandt, ce qui était de la main des assistants de Rembrandt, ce qui était dans l'atelier de Rembrandt, mais qui n'était pas tout à fait ni de lui ni de ses assistants, etc. Le fameux Rembrandt Project a été une opération considérable qui avait d'ailleurs des enjeux financiers énormes, parce que si vous déclassez une œuvre qui n'est plus dans le corpus, boum, d'un coup, vous exténuez le marchand ou ses intérêts, etc. etc. Donc, c'était On peut dire que c'était dans un terrain assez labouré déjà, et c'était un coup de pub d'une agence de communication qui a mandaté des ingénieurs qui ont scanné la totalité de la production de Rembrandt pour dire on peut arriver à travers ça à fabriquer un programme. Donc on peut dire que c'est une sorte de défi intellectuel et scientifique, et ensuite le jugement doit être porté, mais l'œuvre a figuré, je me souviens de l'exposition sur la Unfinished à New York, à l'annexe du musée du MoMA, qui est le Breuer, un nouvel annexe, et dans Unfinished, il y avait des allusions à cette œuvre-là pour dire, vous voyez que le corpus n'est pas clos et on peut même jouer avec ça. Autrement dit, jouer, mais c'est encore jouer pour valoriser Rembrandt et dire, bien sûr que cette œuvre ne vaudra jamais un vrai Rembrandt. Mais donc, c'est encore une manière de... Vous voyez comment on peut faire. Alors... Ensuite, la question, il se trouve que récemment, je lisais un travail qu'un étudiant chinois des États-Unis m'envoie sur une observation qu'il a faite sur les écoles d'art en Chine. Et là, ça n'est pas quelques étudiants ou une dizaine d'étudiants, c'est des centaines d'étudiants. Et il y a des photos extraordinaires d'étudiants qui font tous la même chose par centaines et qui s'entraînent pour passer des examens par centaines. Donc vous appliquez un coefficient multiplicateur de 10 ou de 100 à tout ce que vous imaginez dans votre pratique et vous avez cette affaire-là. Alors il y a évidemment un effet de sidération qui notamment est lié au fait qu'en chinois, je crois, le mot créer et le mot imiter sont les mêmes. Et alors le problème, c'est comment peut-on devenir créatif en ayant absorbé toutes les contraintes de l'imitation pour franchir les épreuves du test. À l'inverse, on peut dire que les Beaux-Arts à Paris, après 68, ont dit « ça suffit, le travail sur le modèle, on s'en passera définitivement, maintenant c'est... Quel est votre projet ? Et qu'est-ce que vous savez du monde de l'art ? Donc, on substitue à une convention une autre. On ne s'affranchit jamais d'une convention, de toute manière. Mais une convention a sa variabilité, une autre en a une autre. Et donc, évidemment, le problème, c'est qu'on sait bien qu'il vaut mieux être original par volonté et par science que par défaut. Et c'est ça le problème, évidemment. C'est pour ça qu'il faut se former et ensuite travailler à dépasser sa formation d'une manière plus ou moins volontariste, mais on ne peut pas ignorer ce qui est fait. Et d'ailleurs, la meilleure manière dont les artistes sont interrogés quand on leur fait parler de leur projet, quand on les fait parler de leur projet aux auditions des Beaux-Arts, pour savoir si on va les admettre ou non, c'est de leur demander d'une part leur projet, mais d'autre part ce qu'ils savent au juste de ce qui se fait actuellement. Alors, est-ce que c'est le dernier état de la création ou est-ce que c'est l'histoire de l'art ? C'est une autre histoire. Mais il faut avoir un certain degré d'information pour se situer. Sinon, on est original par impuissance et par arbitraire, ignorant.
Alors, une dernière question.
Non, je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas du tout. Je ne vous crois pas du tout. Je crois qu'on est original sans le savoir.
Sans le savoir ?
Sans le savoir. Les choses arrivent. Mais on s'en aperçoit après.
De toute façon, ça n'est pas vous qui pouvez le juger entièrement. C'est aussi là qu'est l'incertitude extrinsèque.
Non, excusez-moi, il y a Thierry Esquèche qui voulait intervenir.
Pardon.
Là,
non, mais c'est embarrassant parce que c'est court ce qu'on a à dire.
Oui, bien sûr.
Alors, s'il
faut
attendre 8 jours, ça ne va pas.
Ben oui, mais il y en a du. Voilà. Thierry, vas-y.
Non, merci pour ce très beau propos que vous avez fait tout à l'heure. Et notamment, je reviens sur ce qu'on disait un peu tous, sur ce que vous appelez les différentes phases de la construction d'une œuvre, de l'élaboration, ce qui est absolument passionnant. On s'y retrouve tous, d'ailleurs, ça fait peur même, parce qu'on se dit, ce matin, dans quelle phase j'étais ? Et puis là, j'ai raté le coche de cette phase-là, c'est ça qui était passionnant. Mais j'y reviens, on parlait de surestimation, je pense qu'effectivement, il faut une dose, surtout d'inconscience, en fait, quand on commence. Si on n'est pas un peu dans l'inconscience... On n'a pas justement cette illumination dont vous parliez, donc qui va être ce jaillissement extérieur, qui peut être un bruit de métro, une promenade à vélo qui dégénère. On ne peut pas l'entendre, en fait. Donc il faut cette sorte d'inconscience, y compris inconscience par rapport à nos prédécesseurs, d'ailleurs, Sacre du Printemps ou autre, pour pouvoir commencer une. Et pour que cette illumination, on y croit un peu. Quelquefois, d'ailleurs, elle est fausse, cette illumination. On croyait que c'était bon, puis 2 jours après, on s'aperçoit que, dis donc, j'aurais mieux fait de m'abstenir ce jour-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même un déclenchement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est dans le processus, vous avez très bien démontré, entre exploration l'exploitation, en fait, on va se poser ça en fait à chaque moment. Et c'est pour ça que c'est angoissant, parce qu'on se dit j'ai pas assez fait ça, j'ai pas assez fait ça. C'est qu'à la fois, il va falloir que ces petits moments de petites illuminations psychologiques et autres, il va falloir essayer de les garder justement pour faire ces choix entre est-ce qu'on va du côté exploration au risque de casser le processus auquel on a pensé au début. Absolument. On va dire une grande forme, ça, mais qu'il faut garder. Et d'un autre côté, il le faut. Et est-ce qu'on va uniquement dans l'exploitation de ce qu'on a déjà fait, en disant, bon, disons, ça marche, on m'attend là-dessus, le public va être content, ou le soliste attend ça. Mais il faut quand même le faire avec pas de façon académique. Donc, et c'est intéressant parce qu'il faut que cette espèce de tempérament, un peu cette espèce d'excitation à la création, cette inconscience, reste justement pour que, comme le disait Aymeric tout à l'heure, sur 6 mois aussi, pour une œuvre, on a souvent besoin aussi de 6 mois. Alors, on est plus seul qu'un architecte, mais par contre, on a besoin que cette vitalité créatrice reste jusqu'au bout, jusqu'à aller, d'ailleurs, d'une certaine manière, jusqu'à... Quand on avance en âge, j'ai l'impression qu'on se pose le problème. En tout cas, je me le pose quelques fois. Et si maintenant, ce boujoujou que j'ai construit, qui fonctionne comme ça, si je le détruisais, donc sur le côté destruction de quelque chose, c'est peut-être un peu ce que voulait dire Picasso tout à l'heure. Donc il y a ce jeu, je crois, de permanence, des illuminations qui vont faire qu'on va faire ces choix, mais ces choix étant toujours des choix vraiment artistiques forts, voilà, dans ce que je veux dire.
Je vous remercie pour ce qui est au fond une reprise, dans d'autres mots, d'éléments de démonstration ou de proposition que je faisais, et c'est important de pratiquer une sorte à la fois d'introspection, de phénoménologie de son propre travail pour essayer d'en maîtriser à peu près les composantes, mais bien sûr que l'excitation fait partie de l'exercice du renouvellement. Quand Picasso dit « je ne veux surtout pas recommencer tout le temps », et en même temps, il y a des séries. On a le droit d'exploiter quelque chose qui a marché. Mais si on en devient prisonnier, c'est fini. Vous êtes... Je cite dans mon livre de Travail créateur, je cite le cas de Romain Gary. Romain Gary a eu le prix Goncourt très tôt, et progressivement, il a eu le sentiment que les critiques n'avaient plus de surprise à l'égard de son œuvre et que ça commençait à devenir pour lui gênant parce qu'il n'arrivait plus à faire valoir son originalité d'un livre à l'autre. Il était encombré par sa réputation et par la prévisibilité de ce qu'on attendait de lui. Et il a décidé de prendre un pseudonyme. Et il a obtenu une deuxième fois le prix Goncourt. Donc il a battu le jeu parce qu'on n'a pas le droit d'obtenir deux fois le prix Goncourt. C'est interdit. Et donc il a battu le système. Et il a dit, vous voyez bien que j'ai des qualités intrinsèques que le système me dénie parce qu'il me fige dans ma réputation et que les critiques ne veulent plus s'intéresser à moi. Ils ne veulent s'intéresser qu'à la dernier perdreau de l'année et pas à ce qui est déjà là. Et donc, je vais leur démontrer. C'est une sorte d'expérience naturelle assez fascinante. Ça veut dire que, d'une part, vous voyez bien le jeu, d'une part, le monde environnant, les critiques, les professionnels veulent du nouveau. Ils veulent des nouvelles têtes, parce que sinon, eux-mêmes ne se valorisent pas, d'ailleurs. C'est comme ça qu'on peut aussi dire « je suis découvreur d'un nouveau romancier ou d'un nouvel artiste ». Et en même temps, l'individu qui est soumis à ce jeu, comment va-t-il prendre de l'âge dans un tel système? Il doit évidemment avoir comme impératif, pour lui-même d'abord, de se renouveler, et en même temps de conserver une certaine identité, sinon ça devient erratique. Et il entre dans le chaos vis-à-vis de lui-même aussi. Donc ce sont ces compositions de forces qui sont toutefois toujours intéressantes à observer. Il n'y a pas de solution miracle, évidemment. L'équation, elle n'est pas là. On peut énoncer tous les facteurs de variabilité et ensuite on les fait entrer en composition. Mais il faut d'abord voir comment le jeu des forces dispose. Et après, c'est à la situation et à l'individu en situation de prendre ses points et d'autre part d'interagir avec son environnement, évidemment, qui est très important. C'est une des raisons pour lesquelles, c'est une observation qui est très intéressante, les créateurs sont beaucoup agglomérés dans des villes plus qu'à proportion de leur nombre dans la population. C'est-à-dire qu'on a une concentration géographique des artistes dans les grandes métropoles urbaines parce qu'ils veulent maximiser la quantité d'échanges entre eux comme moyen de se régler sur eux-mêmes et sur autrui. C'est ça le principe. Il faut en prendre et en laisser dans l'échange avec autrui, mais il faut échanger sans arrêt avec autrui. C'est une des ressources, évidemment. Le sociologue qui ne dira pas ça ne sera plus un sociologue, parce que bon, la société commence à 2 et 3, 3 peut-être plus que 2. Et voilà.
Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va arrêter ici.
Absolument.
Merci encore, vraiment. C'était passionnant.